Alors, est-ce que ça va? Alors, comme vous le savez, ça fait maintenant plusieurs dimanches qu'on est sur le thème des béatitudes. Donc, l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples dans Matthieu 5, les versets 1 à 12. Donc, il y a eu différentes prédications les dimanches précédents. Et aujourd'hui, on finit la thématique, donc on va aborder ensemble la dernière partie qui sont les versets 10 à 12 de Matthieu 5. Donc, il y a eu un petit problème de communication. Normalement, vous auriez dû recevoir les trams qui étaient posées sur chaque siège, mais vous n'en avez pas aujourd'hui. Donc, j'avais quand même préparé des phrases à remplir, mais je vous les dicter. Comme ça, vous pouvez les noter. Donc, je vous invite vraiment à prendre des notes parce qu'il y a beaucoup de versets, ça va être très dense. Donc, restez avec moi, on est ensemble et ça va le faire. Alors, Matthieu 5, les versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc là, ces versets nous parlent clairement de la persécution. Je pense qu'on a chacun une définition claire de la persécution, mais j'en ai choisi une assez neutre, voire laïque, que j'ai trouvée dans le Larousse, donc pas très originale, mais ça mettra tout le monde d'accord. Donc qui dit « La persécution est une action de persécuter par des mesures violentes et arbitraires prises à l'égard d'une communauté ethnique ou religieuse. » Donc de nos jours, je crois que ces derniers mois, on a, par les informations, on a été bombardés d'actes de persécution à travers le monde. Pendant le week-end de Pâques, c'était au Sri Lanka, je crois, une église a été, elle a été victime d'un attentat et 310 personnes sont décédées. C'est énorme. Et ça, c'est un petit exemple comparé à tout ce qui peut se passer à travers le monde. Et c'est notamment, vous connaissez l'organisation Porte Ouverte, donc qui fait un recensement des actes de persécution à travers le monde. Et donc, ils ont un index mondial de persécution des chrétiens. Donc, ils comptabilisent 245 millions de chrétiens sont actuellement fortement, c'est précisé, fortement persécutés. Et le nombre de chrétiens tués à cause de leur foi en 2019 a augmenté de 40% comparé à 2018. Donc la persécution est une chose qui augmente et qui se répand. Et il y a quelques années, je pense, j'avais témoigné de ce rêve-là dans la communauté. Il y avait un temps, le Seigneur, de manière générale, me parle souvent à travers des rêves. Et il y a quelques années, j'ai vraiment fait un rêve qui m'a beaucoup marqué. J'ai rêvé que j'étais en train de regarder la télé, donc j'étais seule devant une télé, et je regardais les infos. D'accord, je regardais les infos, donc tout se passait bien. Et vous savez, généralement, quand il y a un flash info, une nouvelle news, quelque chose de grave qui se passe, donc ils interrompent le programme et un flash info arrive. Et c'est ce qui s'est passé. Et je vois une présentatrice devant l'écran qui dit voilà, le gouvernement du Danemark, donc un pays qui, a priori, ne vit pas dans la persécution, en tout cas, les chrétiens ne sont pas persécutés là-bas. Le gouvernement a décidé qu'au Danemark, il serait dorénavant interdit d'être chrétien et toute personne qui professe sa foi publiquement sera exécutée sur le champ. Donc, je me rappelle que la télé s'est éteinte, je me suis retrouvée dans le noir et j'ai vraiment entendu d'une voix audible dans mes oreilles le Seigneur qui me disait « Mais vous croyez que la persécution n'atteint que les extrémités du monde ? Peu importe où vous soyez, elle viendra jusqu'à vous. » Et quand je me suis réveillée, j'étais pas bien, puisque c'est pas forcément un rêve a priori qui est très encourageant. En même temps, je crois que c'est aussi un encouragement du Seigneur de nous dire que, voilà, on vit dans un certain confort aujourd'hui en Occident, parce que les chrétiens vivent une persécution quand même, mais pas aussi violente qu'on peut l'avoir en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Mais on est quand même défié au quotidien par rapport à nos convictions, et ces choses-là vont s'intensifier. Et le Seigneur nous encourage et nous prévient à nous préparer à ces circonstances. Donc à cause de tous ces événements atroces et la violence dont nous sommes témoins au quotidien, c'est très tentant de se conformer aux us et coutumes de ce monde, à la morale de ce monde. Si aujourd'hui vous dites publiquement que vous n'êtes pas favorable au mariage pour tous, vous êtes directement catalogué d'homophobe. Si vous osez dire que voilà, moi j'ai décidé pour plaire à Dieu de me préserver avant le mariage, vous ne connaissez rien à la vie, vous ne connaissez pas les plaisirs de la chair. Voilà. Et donc c'est compliqué aujourd'hui d'assumer d'être chrétien. Donc c'est quelque chose que le Seigneur y compatit, mais il donne aussi des clés pour pouvoir combattre cette persécution. Et c'est ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Donc aussi, dans notre société, on nous prône la diversité. Tout le monde veut être représenté. Parce que moi, voilà, j'ai des grandes oreilles, je veux que toutes les personnes qui ont des grandes oreilles soient représentées. Donc on nous prône la diversité, en même temps, quand on défend certaines idées, ben on nous persécute. Donc c'est une forme d'hypocrisie. Il y a de la place pour certains, mais pas pour tout le monde. Et ça aussi, c'est encore un défi pour les chrétiens. Dieu nous appelle à être des artisans de paix, la lumière du monde, le sel de la terre, de faire de toutes les nations des disciples, de manifester le fruit de l'esprit, d'aimer son prochain, même quand lui nous déteste. Et c'est difficile dans les circonstances qui ne sont pas du tout favorables. Et ça peut mettre aussi nos vies en danger, parce que clairement, ces personnes de qui on parle, ces Sri Lankais qui ont vécu cet attentat, ça a mis carrément leur vie en danger. Et ça peut aussi, nous, qui sommes ici, qui ne vivons pas les mêmes types de persécutions, nous faire changer notre discours par rapport à l'évangile. On préfère prêcher un Dieu d'amour, on ne parle pas du reste. Voilà. Et puis après, le monde comprend l'amour comme quelque chose de bisounours. Donc les chrétiens, c'est une religion de bisounours. Et on n'ose plus être authentique dans notre façon de parler de Dieu et de ce que Jésus a fait pour le monde. Et vous savez, il y a quelques semaines, je regardais la télé. Et je ne sais plus pourquoi c'était, mais bon, j'aime bien regarder la télé, hein, même dans les rêves apparemment. Je regardais la télé et puis il y avait un enterrement national, je ne sais plus pour quelle raison. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé, j'ai vu les cercueils de ces personnes défiler et j'ai eu un moment de pression. Et je me suis dit, mais un jour, ce sera moi. Un jour, je vais me retrouver entre quatre planches. Ça ne m'était jamais arrivé. On sait tous qu'on va partir à un moment donné, mais de voir ces cercueils, je me suis dit, mais ouais, ça peut arriver n'importe quand. Je peux mourir demain et je me retrouvais. Et je me retrouverai là-dedans. Et en fait, au moment où j'ai pensé ça, le Saint-Esprit m'a repris, m'a pris par le col, il m'a réveillé. Mais il m'a dit, mais non, tu ne mourras pas. Et des fois, on l'oublie en tant que chrétien. On s'est dit, oui, le corps va peut-être mourir, mais si on a décidé de donner sa vie à Jésus, qu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, on ne mourra pas. Dans Romains 10, 13, il est écrit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans Jean 3, verset 16, que vous connaissez jusqu'au verset 17, on peut lire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé et sauvé par lui. Donc, cette première partie, la phrase que vous pouvez noter si vous prenez des notes, c'est que la persécution ne met pas ma vie en danger car j'ai l'assurance de mon salut. Je répète encore une fois, la persécution ne met pas ma vie en danger car j'ai l'assurance de mon salut. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les précédentes béatitudes, donc des versets 1 à 9, elles parlaient des caractéristiques qu'un chrétien doit manifester en Christ. Mais les versets 10 à 12 que je viens de citer sont beaucoup plus longs, beaucoup plus développés, donc Jésus insiste beaucoup dessus. Et il parle du caractère du monde face aux chrétiens qui manifeste les sept caractéristiques précédentes. Donc, petite parenthèse, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être persécuté. Il y a beaucoup de minorités qui sont persécutées pour leur orientation sexuelle, orientation politique, pour leur sexe, leur âge, leur poids, leur physique. Il y a tout plein de raisons d'être persécutées. Donc je ne nie pas que la persécution touche davantage de personnes. Mais là, dans ces béatitudes, Jésus traite clairement de la persécution des chrétiens. Et des chrétiens qui manifestent davantage ces caractéristiques. Donc la deuxième phrase que vous pouvez noter encore, c'est que la persécution dont parle Jésus concerne les chrétiens qui manifestent la justice de Dieu. Qu'est-ce que... okay. Merci, ils sont toujours au top. Hein. Merci beaucoup. Donc la persécution dont parle Jésus concerne les chrétiens qui manifestent la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, pour ne pas vous faire tout un livre théologique, se résume en la personne de Jésus. On est d'accord ? La justice de Dieu, c'est Jésus. Dieu a fait justice en donnant Jésus. Donc la justice de Dieu, c'est Jésus. Donc la persécution dont parle Jésus concerne les chrétiens qui le manifestent lui-même. Ce qui veut dire qu'il y a des chrétiens, donc du moins des personnes qui se disent chrétiennes, qui ne manifestent pas la justice de Dieu. Et là, il faut faire une différence et ça permet aussi de se remettre en question. Il y a des personnes qui sont aigries, constamment dans la critique, désagréables, pessimistes, dans le jugement. Donc je ne dis pas que c'est normal pour ces personnes de se sentir persécutées, Mais ça fait qu'on peut se remettre en question et se dire, mais voilà, est-ce que moi, je manifeste vraiment Jésus ? Est-ce que le fait qu'on me traite de cette façon, c'est vraiment parce que je suis dans la volonté de Dieu ? Ou juste parce que je suis odieux ou odieuse ? Ça peut arriver. Vous me suivez ? Je vais me regarder choquée. Je vise personne, hein, mais c'est des réalités. Ensuite, si on veut essayer de comprendre la réalité et les raisons de la persécution. Donc la persécution, c'est une réalité quand on a décidé de donner sa vie à Christ. On n'a pas besoin de forcer pour être persécuté. La persécution vient quand on manifeste notre identité en tant que chrétien. Donc il peut arriver des fois qu'on se mette dans des situations où on se retrouve persécuté, alors qu'on aurait pu tout à fait les éviter. Donc si par exemple vous êtes, je sais pas, au travail, vous dînez avec des collègues et que tout le monde jure et que tout le monde voilà, et boit, se met à l'envers, etc. et que vous vous sentez persécuté parce que vous, on vous regarde de travers, parce que vous n'êtes pas chrétien, donc vous n'êtes pas bien, ce n'est pas vraiment de la persécution. Il y a des choses qu'on peut éviter. Mais en tant que chrétien, juste le fait de manifester, même malgré nous, le royaume de Dieu, est un motif de persécution. Donc la persécution n'est pas une condition, c'est un état quand on est chrétien. Dans le verset 11 de Matthieu 5, justement, je répète, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. » Donc « lorsqu'on », c'est un moment, ce n'est pas une condition. « Quand on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Et j'ai une petite anecdote. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé pendant un peu plus de 4 ans à Manor, à Genève. Et puis... une année après avoir commencé, j'ai une nouvelle collègue qui est arrivée et qui, moi j'avais un contrat étudiante, donc je travaillais que les samedis, j'avais pas un poste supérieur, mais elle avait été engagée comme responsable, donc elle avait le droit de me donner du travail, etc. Et j'ai vite compris que cette femme ne m'aimait pas. Je savais pas pourquoi, mais elle ne m'aimait pas. Donc elle me donnait beaucoup de travail. Déjà j'essayais de faire un peu plus que ce qui m'était demandé. Voilà, si j'ai du temps, j'aide mes collègues comme tout le monde. Donc j'étais déjà née de nouveau, hein, je précise. Donc elle me donnait beaucoup de travail, elle se plaignait toujours de moi. Ça l'amusait de me rabaisser avec des blagues assez sarcastiques comme ça. Et je me disais, bon voilà, moi je suis là que les samedis, je ne vais pas essayer de répondre, d'avoir une attitude de vengeance. Je fais mon travail et je rentre chez moi. Et bon, ça a quand même duré un peu plus d'une année. Donc ça commence à faire lourd, on a la pression qui monte. Des fois, on a envie des fois de donner des coups, mais je me dis, non, je suis enfant de Dieu. Je ne céderai pas à la tentation. Et donc une fois, ça a été un peu la foi de trop, et je suis allée dans les réserves pour chercher des vêtements, et je l'ai entendu qui parlait à une de mes collègues et qu'elle m'insultait ouvertement, que j'étais incapable, voilà, etc. Et je me suis dit, bon là, Seigneur, il faut que tu agisses, parce que moi, je peux rien faire de bon humainement. Donc j'ai vraiment mis ça en prière. Et donc, une fois, elle vient, et c'était à l'époque où il y avait encore ad hoc les vendredis. Et moi, je travaillais les samedis. Donc, ad hoc, c'est le groupe de jeunes de l'église. Et donc, elle vient me voir, et puis elle me dit, toi, tu fais quoi le week-end? Tu sors, tu vas en boîte de nuit, tu vois, machin, nan, nan. Je lui dis, non, moi, je sors pas. Genre, typiquement, hier, je suis allée au groupe de jeunes de mon église. C'est ce que je fais le vendredi soir. Elle m'a regardée. Elle a fait, ah, mais c'est pour ça. C'est vrai, hein, ce que je raconte. Non, mais je précise. Et j'ai dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? Elle dit, ah, mais non, t'es chrétienne. Non, parce que tu sais, j'ai une cousine, elle habite au Portugal, elle est chrétienne aussi. Et puis c'est vous, là, quand vous chantez, vous levez les mains, vous criez Alléluia. Je me suis dit, bon, ok, d'accord. Elle dit, non, parce que tu vois, moi, je crois que t'étais une hypocrite, t'es là, tu t'es serviable, etc. Voilà. Donc parce que j'essayais d'être quelqu'un de correct, hein, de bien, de faire mon travail, pour elle, c'était de l'hypocrisie. Et donc pour le coup, inconsciemment et malgré moi, j'ai été persécutée quand même. J'ai été persécutée à cause de Christ en moi. Et donc là, pour le coup, attendez, juste une chose. Donc pour ceux pour qui ça arrive, j'ai pensé à vous. Si vous avez des collègues qui ne sont pas sympas avec vous, j'ai noté Proverbe 16, verset 7, qui dit... Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Okay, donc ne perdez pas espoir. Et sachez que cette collègue, après, c'est devenue ma plus grande défenseuse. Elle m'appelait pastorette après. Depuis qu'elle savait que j'étais... C'est comme ça qu'elle m'appelait. Elle m'a toujours défendue. À chaque fois qu'il y avait des problèmes avec les clients, elle venait, elle me défendait. Donc voilà, l'Éternel peut favorablement mettre cette vie de notre côté. Donc, cette expérience, c'est une anecdote qui a été agréable pour moi, parce que le fait qu'elle ait su, finalement, que j'ai été chrétienne, ça a été un bon témoignage, pour le coup. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que Jésus dit clairement qu'on sera persécuté à cause de lui. Et en plus, qu'on doit être heureux pour ça. C'est encore une autre histoire. Donc, dans la majorité des cas, un chrétien, il est persécuté précisément parce qu'il est chrétien. Je pense que vous savez que chrétien, ça veut dire petit Christ, n'est-ce pas ? Et donc, vous pouvez noter la phrase suivante. Parce que Christ a été persécuté avant nous, et parce que maintenant il vit en nous, nous le sommes ou le serons aussi. Okay. Dans Jean 15, verset 20, il est écrit « Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront également. » C'est Jésus-même qui le dit. Dans 2 Timothée 3, verset 6. Ah pardon, qu'est-ce que tu veux que je répète ? Ah oui, donc je répète la phrase. Désolé, j'étais partie là. Alors, parce que Christ a été persécuté avant nous, et parce que maintenant il vit en nous, nous le sommes ou le serons aussi. Donc, je répète les versets. Dans Jean 15, verset 20, « Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront également. » Dans 2 Timothée 3, verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ seront persécutés. » Donc la persécution, elle est annoncée aux chrétiens. Ce n'est pas quelque chose dont on n'est pas censé avoir connaissance. Jésus nous prévient. Donc c'est comme je l'ai dit, c'est une manifestation de notre identité en Christ. Donc le plus difficile maintenant pour nous, c'est de ne pas savoir comment éviter la persécution, mais c'est plus de savoir comment répondre à cette persécution. Donc le premier point pour savoir comment répondre à une persécution, c'est reconnaître la source de la persécution. Dans Éphésiens 6, 12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc on sait que le diable, il a été vaincu. Dans la Bible, il a été écrit que les ténèbres ont été livrées en spectacle quand Jésus a triomphé à la croix. Donc son sort, il est déjà bouclé. Okay ? Mais lui, vu qu'il sait qu'il ne peut pas s'attaquer à Dieu directement, il veut précipiter tout le monde avec lui dans sa défaite. Et je pense qu'on peut demander à n'importe quel parent ici présent, le meilleur moyen de vous heurter en tant que parent, c'est de s'attaquer à vos enfants. Et c'est exactement ce que le diable essaie de faire. Donc, en ayant ce raisonnement, on peut soit se dire, ok, ça veut dire en gros que moi je suis un bouc émissaire. Ok. Ce n'est pas ça que Dieu nous dit, on n'est pas des boucs émissaires. Mais si on comprend que c'est les ténèbres en fait, qui nous persécutent, ça peut aussi nous changer l'image qu'on a en fait, des personnes qui sont en face de nous. C'est vrai que ma collègue, quand elle me persécutait, moi je la voyais elle, souvent. Je me disais, elle m'énerve, qu'est-ce qu'elle me veut, etc. Mais si on prend ce verset, qu'on se dit, voilà, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, on n'a pas lutté contre des hommes, mais contre des autorités qui sont derrière, ça change aussi le regard qu'on porte sur les personnes. En priant pour elle, je me suis dit, bon voilà, peut-être qu'elle a des problèmes dans sa vie, peut-être qu'elle a des problèmes de couple, peut-être qu'elle a une enfance difficile, je ne sais pas. Et je ne dis pas que ça excuse pour persécuter les gens, mais ça change aussi notre regard sur eux, ça nous permet aussi après de prier pour eux. Dans Matthieu 5, verset 44, on peut lire « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Donc c'est difficile déjà humainement d'aimer les gens. Parce que l'amour, c'est aussi une décision. On décide d'aimer quelqu'un. Donc même quelqu'un qui est gentil avec nous, on l'aime, c'est pas compliqué. Mais quand en plus, c'est quelqu'un qui nous persécute et que Dieu nous demande de les aimer, humainement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Et c'est là que l'amour de Dieu intervient. Et la prière entre en jeu dans la mesure où on peut demander justement à Dieu de nous aider justement à aimer ces personnes. Et elle entre aussi en compte dans le fait de, comme j'ai dit, prier pour ces personnes fait grandir aussi notre amour en nous pour eux. Et c'est comme ça aussi qu'ils arrivent à voir Dieu à travers nous. Dans Romains 12, les versets 19 à 21, on peut lire « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » C'est difficile de mettre ça en pratique, parce que quand on subit le mal, on a tendance à se braquer. Et vous pouvez noter encore une fois la phrase suivante. Surmonter le mal par le bien est un moyen par lequel Dieu nous utilise afin qu'il soit vu des autres à travers nous. Je répète encore. Surmonter le mal par le bien est un moyen par lequel Dieu nous utilise afin qu'il soit vu des autres à travers nous. Donc ce serait dommage de manquer une occasion que les autres puissent voir Dieu à travers nous. On est appelé lumière du monde, celle de la terre. Donc c'est aussi un devoir. Et bon, je vais encore vous choquer, mais je regardais la télé encore. Et il y a quelques semaines, je regardais une émission en fait qui, en fait, c'est un journaliste, il va dans les prisons pour femmes. Et il va interviewer des femmes qui ont été condamnées pour des meurtres très graves. Okay. Donc, ne me demandez pas pourquoi je regardais ça, mais je regardais ça. Et donc, il tombe sur une jeune femme qui a 24 ans aujourd'hui, et puis qui a été, disons, l'organisatrice d'un meurtre quand elle avait 16 ans, ce qui est extrêmement jeune. Et en fait, cette fille, quand elle avait 16 ans, dans son jeune âge, dans son adolescence en général, elle avait des petits copains que ses parents n'appréciaient pas. Et je précise que sa famille était chrétienne. D'accord ? Ça se voit, ça se sent, c'est vraiment des chrétiens. Et donc ses parents n'appréciaient pas les petits copains qu'elle avait. Et donc son dernier petit copain en date, disons qu'elle l'a manipulé, lui avec ses amis, pour venir chez elle et exécuter toute sa famille. Donc elle avait sa mère, son père et ses deux frères qui avaient 15 et 9 ans à l'époque des faits. Donc elle les a appelés un soir, ils sont venus, ils ont tiré sur tout le monde, vraiment un crime horrible. Par chance, si ce n'est par grâce, le père a survécu. Il a pris 5 balles dans le corps, il a pu s'échapper avant que les jeunes mettent le feu dans la maison. Et quand ça s'est passé, lui ne savait pas que c'était sa fille qui avait orchestré tout ça, parce que ce n'est pas elle qui a tué directement, elle l'a fait faire par son copain et ses amis. Et donc voilà, sa mère, ses petits frères ont été vraiment un crime de sang vraiment particulièrement horrible. Et donc l'enquête a débuté, ils ont compris que c'était la fille qui était le cerveau de l'histoire. Et puis quand on voit cette fille, c'est vraiment une fille très jolie, toute menue, blonde aux yeux bleus, voilà, qui n'a pas l'air de ce qu'on pourrait appeler plus communément un monstre. C'est une fille, voilà, une jeune fille. Et donc le journaliste l'interview. Elle témoigne de ce qui s'est passé, qu'elle a des regrets apparemment, voilà, bon, voilà. Okay. Et ensuite, il va interviewer le père qui est toujours en vie. Et puis, il lui demande, voilà, comment vous vivez depuis que ça s'est passé, comment, voilà, vous gérez tout ça. Et le père a dit que c'était très difficile à vivre, de se dire que, voilà, toute sa famille est partie, et qu'en plus, à cause de sa fille, qui, en plus, a voulu même le tuer, lui. Mais il a dit, j'ai pardonné ma fille. Il a totalement pardonné sa fille. Il a dit que ça a été un long processus, que pendant le procès, il avait presque envie de demander la peine de mort, parce que c'était aux États-Unis, et dans l'état dans lequel le crime a eu lieu, il pouvait demander la peine de mort, même pour les jeunes qui avaient exécuté ce meurtre. Mais il a dit non, je ne veux pas. Il a pensé à prendre une arme pendant le procès, aller pour tirer sur les deux meurtriers présumés. Il ne l'a pas fait. Et il a dit qu'il allait voir souvent sa fille, qu'il lui disait qu'il l'aimait, qu'il ne l'abandonnerait jamais. Et même sa fille disait mais qu'elle a peur qu'un jour son père se réveille et qu'il se dise mais en fait, je ne t'aime plus. Mais il la rassure constamment. Il lui dit je t'aime, je ne te laisserai pas, etc. Et par-dessus tout ça, donc comme la maison a brûlé, il vivait en campagne, un très bel endroit dans la nature, il a emménagé sur les lieux du crime avec une caravane. Il a dit maintenant j'habite là. Et on lui a demandé pourquoi, ce qui est très bizarre quand même. Et puis il a dit qu'il voulait simplement garder en mémoire les souvenirs heureux en fait, de sa famille. Pour lui, c'était une manière thérapeutique d'inverser en fait, le crime qui avait eu lieu. Donc il vit là, avec le souvenir de ses enfants, de sa femme décédée. Il va voir sa fille, très souvent, pour lui rappeler qu'il l'aime. Et ça m'a vraiment bouleversée. J'ai réfléchi pendant des jours et des jours. En fait, je me suis rendu compte que l'amour qu'il manifeste, c'est exactement l'amour du Père. C'est exactement l'amour du Père. Parce que Dieu a fait exactement la même chose avec nous. Alors que le monde avait péché. Parce qu'il n'y a pas de péché. Enfin, on pourrait dire, le péché, c'est le péché. Okay? Le monde a péché. On était condamné à mourir. Dieu n'a pas quitté la terre. Il s'est installé. Il est venu en tant qu'homme sur le lieu du péché. Sur la terre même où l'homme avait péché. Et en plus de ça, il a donné Jésus qui est mort pour nous par amour. Vous suivez? Okay. Donc, je me suis dit, mais si Dieu, et si cet homme, parce que c'est un homme, a pu manifester ce genre de choses face à quelqu'un qu'il connaît, en plus qu'il a fait mais le crime le plus atroce, si on pourrait dire, c'est que nous, on peut être capables aussi. Mais Dieu nous en donne la force. Et cet homme a dit, hein, il y a beaucoup de gens qui m'ont tourné le dos parce que j'ai décidé de pardonner ma fille. Alors c'est même pas eux qui sont concernés, c'est moi. Mais ils ne comprennent pas. Des gens dans ma communauté, dans mon église, qui me persécutent, qui me disent, pourquoi tu vas voir ta fille? T'as rien à faire là-bas. Mais lui, il sait. Il a pardonné. Je vous laisse méditer là-dessus, je ne vais pas en dire davantage. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est réjouissons-nous. La persécution, réjouissons-nous. Avant, on a chanté, si tu es dans la joie, tape dans tes mains. On peut chanter, si tu es persécuté, tape dans tes mains. C'est presque ça, hein, c'est un peu niais, mais c'est pour rigoler. Mais la persécution reste une raison de se réjouir et d'être dans l'allégresse. Le verset 12 de Matthieu 5 dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Donc on peut noter trois raisons de se réjouir face à la persécution. Trois raisons. Donc la première, c'est que la persécution qu'on subit, elle est non seulement comparée à celle de Jésus, mais aussi aux prophètes de la Bible. Donc il y a des hommes et des femmes, il y a Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, Déborah, des gens qui ont marqué l'histoire de notre foi, mais qui ont été des femmes et des hommes comme nous. Donc si eux ont pu faire face à la persécution, nous aussi. Et Dieu voit le même potentiel en nous. Et ça, c'est une des raisons de se réjouir. Donc vous pouvez noter, les prophètes ont marqué l'histoire de notre foi et le Seigneur voit autant de potentiel en nous. Les prophètes ont marqué l'histoire de notre foi et le Seigneur voit autant de potentiel en nous, si ce n'est plus. La deuxième phrase que vous pouvez noter aussi, et la deuxième raison de se réjouir, c'est que la persécution est un indicateur que nous sommes bien dans la volonté de Dieu. Elle n'est pas une malédiction, au contraire. Je répète, la persécution est un indicateur que nous sommes bien dans la volonté de Dieu. Elle n'est pas une malédiction. Au contraire, quand on regarde un peu les disciples qui suivaient Jésus, quand Jésus a été arrêté, qu'il a été jugé, qu'il a été crucifié, tous les disciples se sont en allés. Même Pierre l'a renié trois fois. Mais quand Jésus, après, voilà, est ressuscité, qu'il s'est remanifesté à ses disciples, qu'il leur a donné ses derniers enseignements, ses commandements, ils ont été envoyés, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, et là, tout a changé. Et dans Actes 5, les versets 41 à 42, on peut lire que les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, qui était le tribunal religieux, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Donc, je répète, les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En fait, la persécution, ce n'est pas une raison de se laisser arrêter dans la destinée que Dieu a pour nous. Je dirais même qu'au contraire, on devrait prendre la persécution comme un propulseur pour notre destinée. Si nous sommes dans la persécution, c'est qu'on est dans le bon. Si tu es persécuté, réjouis-toi, tu es dans le bon. Amen. Le troisième point, qui est une raison, la troisième raison de se réjouir face à la persécution, ce sera une phrase très courte cette fois, c'est que la persécution finira. D'accord ? La persécution finira. La persécution n'est pas un état éternel. Elle finira. Comme j'ai dit au départ, on ne mourra pas. Nous vivrons éternellement. Si aujourd'hui, chacun d'entre vous a donné sa vie à Christ, qui le déclare comme Seigneur et Sauveur, la persécution finira. Dans 2 Corinthiens 4, Verset 17. Ces problèmes ne dureront pas très longtemps. Pourtant, cette courte période de détresse aura pour le résultat de la bénédiction la plus riche de Dieu sur nous pour toujours. Elle aura pour résultat la bénédiction. Donc, la persécution peut produire la bénédiction. La plus riche de Dieu sur nous pour toujours. Donc, c'est vraiment un encouragement. La persécution n'est pas une fin en soi. La persécution, c'est pas forcément... Ça fait du mal, on va dire que c'est plaisant de se faire persécuter. Mais comme j'ai dit, ça nous montre simplement que Dieu nous rend capables en fait, de surmonter tout ça. Ça n'empêche pas le plan de Dieu. Ça n'empêche pas la destinée de Dieu, ça n'empêche pas à Dieu d'accomplir son appel, l'appel qu'il a mis en chacun d'entre nous et l'appel qu'il a mis sur son Église en général. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais, c'est tout, à vous apporter ce matin. On va prier. Donc, je vais vous demander de vous lever. On va prier vraiment pour être fortifié. Parce que maintenant, on le sait que la persécution, non seulement elle est présente, mais elle va certainement s'intensifier. Alors que vous soyez persécuté ou pas, peu importe le niveau, le degré de persécution, Dieu veut nous rendre capables de surmonter ça et de continuer à œuvrer pour le royaume. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour nos vies, pour chacune de nos vies, Seigneur. Merci parce que tu nous as choisis, Seigneur, pour être tes enfants. Et nous avons accepté de te suivre, Seigneur. Et Seigneur, en tant que disciples, Seigneur, nous savons que la persécution viendra. Mais par ton esprit, Seigneur, nous sommes fortifiés, Seigneur. Merci pour cette identité de vaillant et de vaillante que tu as mis en nous, Seigneur. Nous ne voulons pas et nous refusons de faiblir face à la persécution, Seigneur. Peu importe la morale, peu importe ce que le monde nous pousse à faire, Seigneur. Nous voulons continuer à marcher dans tes voies, à marcher dans l'intégrité, Seigneur, à marcher selon ta parole. Alors je te prie pour chacune des personnes qui est ici présente, Seigneur. Vraiment que ton esprit vraiment déverse une onction fraîche, Seigneur. Une onction qui nous fera décoller, Seigneur, pour aller plus loin dans ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Qui nous fasse demeurer dans l'obéissance, Seigneur. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire, Seigneur. Alors viens vraiment nous remplir de ce faire, Seigneur, que toi tu donnes. Que nous puissions demeurer à être des lumières, Seigneur, dans nos lieux de travail, Seigneur, dans nos familles, autour de nous, avec nos amis, Seigneur, dans la rue, peu importe où tu nous appelles, Seigneur, mais que le message de l'Évangile ne soit jamais bridé pour aucune raison, Seigneur. Alors sois glorifié, sois élevé dans nos vies. Dans le nom de ton précieux Fils Jésus. Amen. Soyez bénis.